Ce 14 janvier, il devient le nouveau roi du Danemark. Le prince Frédéric, ex-prince fêtard, autrefois peu taillé pour les responsabilités, succède à la reine Margrethe II et devient Frédéric X. Je suis Magali Rangin, chef du service People et Culture de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Dans cet épisode, la journaliste Anne-Françoise Hivert, correspondante pour le journal Le Monde en Scandinavie, nous parle du destin de ce prince moderne et sportif et du couple qu'il forme avec Mary, première reine du Danemark à venir d'Australie. Bonjour Anne-Françoise.
Bonjour Magali.
Ce prince Frédéric, il est quinquagénaire, il a 55 ans. Il a pourtant une image de modernité. Comment cela se fait-il ?
Oui, en fait, les Danois le considèrent un peu comme un prince normal, entre guillemets, qui a une vie pas si différente que la leur. Alors évidemment, c'est un peu exagéré. Mais c'est quelqu'un qui, comme vous le disiez, n'a pas toujours été considéré comme à la hauteur de la fonction, qui a énormément changé et qui est devenu un prince très accessible. Il parle facilement avec les Danois, il va facilement à leur rencontre, il semble être à l'aise avec à peu près tout le monde, tous les gens qu'il rencontre. C'est quelqu'un qui semble aussi avoir une vie assez équilibrée, finalement, qui fait énormément de sport. C'est vraiment le centre de sa vie, probablement avec sa famille, sa femme, Mary et ses 4 enfants. On le voit donc participer à des courses, des marathons, etc. Il a créé en 2018, lors de ses 50 ans, la Royal Run, qui est donc une course qui se décline en plusieurs distances dans plusieurs villes du Danemark et qui est un succès absolument phénoménal au point qu'elle est devenue une tradition annuelle. La prochaine aura lieu en mai de 2024. Tous les billets sont vendus et donc il y a des milliers de Danois qui se déplacent pour applaudir les participants, dont le prince et même certains de ses enfants, souvent. C'est aussi quelqu'un qui, alors c'est peut-être de la mise en scène, mais qui semble avoir une vie de famille à peu près normal. On voit par exemple, on les a vus souvent quand les enfants étaient petits, transporter les princes et princesses en cargo bike dans Copenhague. Donc c'est quelque chose de très danois. Ils les amenaient à l'école en vélo. C'est un prince qui semble un prince contemporain, moderne. Donc.
Est-ce que les Danois, à l'occasion, enfin à la faveur de ce changement de monarque, est-ce que ça suscite des questions sur l'utilité de la monarchie finalement dans
Alors
le pays ?
Absolument aucune. Au contraire même. Donc on a des sondages qui ont été publiés ces derniers jours et qui confirment ce qu'on savait déjà. Enfin, par exemple, les enquêtes d'opinion qui avaient été organisées au moment du jubilé de la reine, plus de 8 Danois sur 10 sont attachés à la monarchie. Les républicains, c'est à peu près 15%, c'est une part constante. D'ailleurs, quelque chose qui s'est passé ces derniers jours qui est assez révélateur, le Parti social-démocrate jusqu'à présent refusait de recevoir les décorations royales, les médailles que la reine peut distribuer. Et lundi, le parti a décidé de changer de position. Donc, désormais, ils accepteront ces décorations, les membres du parti. Ça montre vraiment que ce soutien, cet attachement des Danois à la monarchie, je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que c'est un peu un repère pour les Danois dans un monde qui change, plein d'incertitudes. C'est aussi une institution qui participe un peu au rayonnement du pays, qui est un tout petit pays, mais dont on parle souvent en lien justement avec les visites officielles des princes et princesses, de la reine à l'étranger. Donc je pense qu'à moins que le prince Frédéric et sa femme fassent de grosses bêtises, ça ne devrait pas changer dans les mois, les années qui viennent.
Alors ce prince, donc ce futur roi, vous le disiez, est très très sportif. Quel est son parcours ? Est-ce qu'il a fait des études ?
Oui, alors il a fait des études, il est même le premier héritier au trône à avoir décroché un diplôme universitaire. Il a un master de sciences politiques. Il a étudié en partie à l'université très prestigieuse américaine Harvard et à l'université danoise d'Aarhus. Il a aussi une formation militaire d'élite. Il a réussi à devenir plongeur de combat. Dans sa promotion, ils étaient 13 à la débuter. Ils sont 4 à avoir accompli la formation, ce qui lui a valu pas mal de reconnaissance au niveau des Danois. C'est quelqu'un qui, comme d'ailleurs, est souvent en lien avec les princes héritiers norvégiens et la suédoise Victoria, a pris position pour défendre l'environnement, alerter sur les changements climatiques. Donc, ça renvoie aussi aux positions du roi. Charles. D'ailleurs, il est assez, le prince Frédéric est assez proche du prince héritier norvégien, de la prince héritière suédoise. Ils ont un peu grandi ensemble et ils sont d'ailleurs cousins. Et vous mentionniez aussi le sport. Le sport, c'est vraiment quelque chose de central. Et donc, il a travaillé pendant un certain temps. Enfin, travaillé. Il a été actif au sein du CIO, le Comité international olympique.
Il a, vous le disiez, une très bonne image. C'est un futur roi sérieux. Pourtant, il n'a pas du tout toujours eu cette image. Il était même plutôt assez mal vu. Il était considéré comme un prince fêtard, pas forcément taillé pour ce rôle de roi. Comment il a pu se défaire de cette image ?
Oui, en effet, on a ressorti ces derniers jours la une du tabloïd Extra Bladet qui avait été publié en janvier 92 et qui demandait « Est-ce qu'on peut nous libérer de Frédéric comme roi ?» C'est intervenu en fait quelques jours après un nouvel an qui a visiblement avait été très, très arrosé. Et le prince, le 1er janvier, avait été arrêté avec sa petite amie de l'époque qui conduisait par la police. C'était elle qui était au volant. Elle était ivre, lui aussi. Mais en plus, elle n'avait pas le permis de conduire, donc ça avait fait énormément de bruit, d'autant plus que ça intervenait 4 ans après un accident de voiture en France, à Quai, près du château du couple royal, où les deux fils, les deux princes, avaient en fait conduit la voiture dans un arbre, et il y avait des tonneaux, la voiture avait fini sur le toit, etc. C'est le prince Joachim qui conduisait, son frère avait été blessé, ça avait conduit le père et la mère à organiser une conférence de presse en urgence pour expliquer ce qui s'était passé. Alors, il y a une photo où on voit les deux princes qui ont l'air absolument désolés d'être là, rouges, les yeux baissés, etc. On a eu aussi des propos. Enfin, il était visiblement aussi très mal à l'aise pour s'exprimer en public. Il a visité le Japon. Il était assez jeune. Hein. Il a visité le Japon, il a visité le site d'Hiroshima. Et quand des journalistes lui ont demandé ce qu'il avait ressenti, il avait répondu qu'il avait à peu près ressenti rien et que les jeunes devaient passer à autre chose. Donc, ça avait évidemment provoqué un scandale. Ça avait conduit quand même beaucoup de gens à douter un peu de ses capacités de succéder à sa mère qui était déjà très populaire, qui semblait très, très douée pour ce rôle. Je discutais avec un journaliste danois qui suit la cour et qui me disait qu'il pensait que le prince, qui l'a dit lui-même d'ailleurs, doutait énormément. Le prince a dit dans une autobiographie qu'il regrettait de ne pas avoir pu en discuter avec ses parents parce qu'il avait eu une relation visiblement distante avec eux. Son frère et lui ont grandi avec une nourrice et voyaient peu leurs parents. Donc ça contribuait à donner une image d'un prince qui était assez peu reluisante. Mais effectivement, il a réussi à s'en défaire. Donc le sport a beaucoup compté. Il a par exemple couru un marathon. Donc c'était 5-6 mois après le fâcheux incident du nouvel an avec sa petite amie. Un marathon qu'il a couru en 3h22. Donc ça lui avait attiré énormément de louanges à l'époque. Sa formation militaire, le fait qu'il aille jusqu'au bout. Il a aussi traversé le Groenland en traîneau pendant 4 mois. Enfin, cette détermination, ces efforts, etc., ont un peu changé, enfin beaucoup même changé l'image du prince aux yeux des Danois. Et alors, il y a l'élément sans doute le plus important qui est sa rencontre avec l'Australienne Mary Donaldson, qui est donc devenue sa femme.
Ils se sont rencontrés dans des conditions un peu dignes d'une comédie romantique.
Oui, en effet, c'est dans un bar à Sydney en 2000, pendant les Jeux Olympiques. Donc lui était là pour soutenir l'équipe, les sportifs danois. Elle a dit plus tard, donc elle travaillait dans le marketing, elle a dit plus tard qu'elle n'avait aucune idée de qui était le prince. Elle avait probablement pas non plus beaucoup d'idées sur le Danemark. À l'époque, elle vient de Tasmanie, son père est professeur de mathématiques à l'université, sa mère était décédée quelques années plus tôt. Et donc, ils ont continué, après cette rencontre initiale, à échanger alors des courriers, des coups de téléphone. Et puis, il y a eu quelques rencontres, des photos qui ont été publiées dans la presse aussi. On a commencé à s'intéresser à cette Australienne. Ça a fait énormément de bruit en Australie aussi. Elle est venue quelques mois à Paris en 2002. Donc, c'était une façon de se rapprocher du Danemark sans être au Danemark exposée aux tabloïds, notamment aux paparazzi. Et puis, elle s'est installée au Danemark. Donc là, quand c'est devenu officiel, ils se sont fiancés. Elle a appris très rapidement le danois. Donc là, ça a été un atout majeur pour sa popularité auprès des Danois. C'est pas une langue facile. Elle a aussi été formée à la cour et il était évident très rapidement qu'elle avait été intégrée au sein de la famille par la reine notamment et le prince Henri, son mari. Et la reine qui a dit depuis d'ailleurs qu'elle avait eu un rôle fondamental dans la vie de son fils. C'était pendant la cérémonie officielle pour ses 50 ans. Et une image qui a vraiment marqué les Danois, je pense, c'est celle de leur mariage quand elle rentre dans la cathédrale de Copenhague et qu'on voit le prince en larmes l'attendre devant l'autel. Donc ça a été repris absolument partout. Donc je pense que effectivement, elle est extrêmement populaire, plus même que son mari.
On la compare parfois, enfin les Britanniques la comparent à Kate Middleton, la princesse de Galles, l'épouse du prince William. Est-ce que c'est une comparaison qui est valable à vos yeux? Est-ce que c'est un peu ce genre de princesse?
Je pense que les Danois font la même comparaison, en tout cas ils sont ravis. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de traits communs dans leur façon d'être, c'est-à-dire de respecter les règles, d'être en retrait par rapport à leur mari. Alors il y a la même élégance. Les Danois apprécient beaucoup qu'elle ait recours à des designers danois, notamment pour s'habiller lors de visites à l'étranger, etc. Donc le même glamour, le même style assez classique, mais parfois plus osée aussi. Elle est aussi très impliquée dans plein d'œuvres de charité, de fondations, d'associations, etc., notamment contre le harcèlement à l'école, pour la protection des droits des enfants, etc. Et c'est une future reine qui était très, très, très populaire au regard des Danois.
Pourtant, il y a quelques nuages qui s'amoncellent au-dessus du royaume du Danemark. Les tabloïds se sont récemment fait l'écho de problèmes au sein du couple. Le prince aurait été infidèle. Alors d'où viennent ces rumeurs et de quoi s'agit-il?
Alors, c'est des rumeurs qui ont émergé après qu'un magazine espagnol ait publié des photos du prince en compagnie d'une mannequin. C'est une photo où on le voit juste en sa compagnie, c'est rien de très scandaleux. Donc ça a donné lieu immédiatement à des rumeurs, mais dans la presse étrangère en fait, enfin dans la presse, les tabloïds étrangers, très peu au Danemark en fait. Donc évidemment les deux intéressés ont absolument nié. Et au Danemark, en fait, c'est un peu comme si tout le monde s'en fout, en se disant non seulement que c'est probablement pas vrai, même si c'était vrai, et ben voilà, c'est sa vie et c'est un prince normal, un prince ordinaire, et il fait ce qu'il veut. Donc ça a vraiment pas fait scandale au Danemark, on n'en parle pas quasiment pas, ou pas du tout, même dans les médias danois actuellement, alors qu'il y a énormément de portraits qui sont publiés sur le futur roi et sa femme. Donc je dirais que les Danois n'y croient pas, et que si ceux qui voudraient y croire se disent que finalement, c'est pas si grave que ça.
Merci beaucoup Anne-Françoise.
Merci.
Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à nous laisser une note et à vous abonner. À bientôt.